Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu Média et Culture au sens large. Vous retrouverez l'ami Laurent Mariotte. On va parler gastronomie, mais également Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir. Bruno Denet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. Et comme nous sommes vendredi, l'actu et les coulisses du sport, du business et du sport-business avec Sacha Nokovic, journaliste à L'Équipe, avec évidemment une spéciale Coupe du Monde vue par les médias. Notre info média, ce soir, France Info, la télé, le canal 27, délocalise une partie de son antenne à l'occasion d'une émission spéciale depuis l'Ukraine. Pourquoi et surtout comment? Nous serons avec Eric Berg, le directeur de France Info TV, d'une journaliste ukrainienne, tous deux en direct depuis la capitale ukrainienne. Ils nous diront comment on travaille et comment un journaliste peut agir dans un pays en temps de guerre. Enfin, Vincent Delerme, le chanteur, mais pas seulement, pour son nouveau double album Comme une histoire et sans parole, avec pour les fans un très très beau coffret et beaucoup beaucoup de choses à dire, et même un disque muet. Comment c'est possible? Vous l'entendrez. On est ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. On va entendre un disque muet.
Exactement. Oui, il n'y a que de la musique, c'est un instrumental. On avait reproché à Vincent Delerme d'être bavard. Donc il s'est dit, vous allez voir, il a pris les journalistes au mot. Au sommaire de votre journal des médias.
La mort d'un producteur de nombreuses émissions de télévision, la fin d'une émission qui a été officialisée, Bertrand Chameroy qui passe de chroniqueur à animateur le temps d'un programme, des actualités sociales aussi, le journal Midi Libre va supprimer des postes, et puis le plus grand journal américain, le New York Times, est en grève et les députés privés de live dans l'hémicycle.
Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Ils ont regardé TF1 qui lançait une nouvelle série Enquête à cœur ouvert. 3 millions de téléspectateurs, 15,7% de part d'audience en moyenne sur les deux épisodes. C'est pas mirobolant comme score pour un lancement de série. Deuxième, c'est M6 avec son documentaire Johnny par Laetitia. C'est un bon score, 2 540 000 téléspectateurs pour un documentaire sur M6. Mmh. Et qui, ça permet à la chaîne en plus d'être leader sur la cible commerciale. 17,5% je crois, sur la part d'audience générale c'est 13,5%. Troisième enfin, c'est France 2 avec un nouveau numéro de Cash Investigation qui a bien marché là aussi, moyenne haute du programme, 2 190 000 téléspectateurs, 13,1% de part d'audience.
On avait reçu l'auteur du sujet terriblement puissant.
Vous allez dire que vous avez porté chance?
Non, parce qu'ils sont troisième, on porte chance quand on est premier.
Europe 1, le journal des médias.
On a appris la mort hier du producteur de télévision Franck Saura à l'âge de 55 ans.
Oui, il était avec Jean-Luc Delarue, le fondateur de Carson Prod, une société avec laquelle il a produit de nombreux programmes pour la télévision. On peut citer notamment Star à domicile, les émissions pour le Sidaction, La Lettre, Les Victoires de la Musique, Sosie or Not Sosie, La Fête de la Musique aussi pendant quelques années. De nombreuses émissions autour de Céline Dion qu'il connaissait bien, plusieurs programmes pour Énergie 12 aussi avec Jean-Marc Morandini. De nombreuses personnalités de la télévision lui ont donc rendu hommage hier. Et la présidente de France Télévisions notamment a par exemple salué la mémoire de ce grand professionnel de la télévision dans un communiqué. Il a porté sur nos antennes avec tant de talent, d'énergie et de créativité, nombre de programmes populaires et de grands divertissements et événements. Voilà ce qu'elle a écrit. France 3 va d'ailleurs lui rendre hommage ce soir puisqu'une de ses productions va être diffusée, l'émission 300 cœurs, c'est à 21h10.
Dans l'actualité également, Claire Chazal confirme la fin de son émission sur France 2.
Bonsoir et bienvenue dans Passage des Arts. Je suis ravie de vous retrouver pour notre magazine du dimanche soir sur France 2.
Voilà ce que vous entendiez le dimanche soir et que vous entendrez pour la dernière fois le 15 janvier prochain, car la journaliste présentera le dernier numéro de Passage des Arts. Télérama révèle qu'elle l'a appris officiellement lundi, mais l'avenir de l'émission était déjà plus qu'incertain depuis un peu plus de deux semaines. L'arrivée d'un nouveau programme télé avait été annoncée par la presse. Un nouveau magazine consacré au cinéma porté par Pierre Lescure, diffusé dans la case habituel de Passage des Arts le dimanche soir en deuxième partie de soirée. Alors Claire Chazal a réagi auprès de Télérama. C'est brutal et c'est un grand sentiment d'injustice. Je n'ai absolument pas vu le coup venir. Fin de citation. Elle a aussi précisé avoir défendu la qualité de l'émission, son contenu, la variété de sa programmation. Mais elle dit que ça n'était pas négociable. D'après Télérama, ce sont en fait les audiences qui ont été jugées trop faibles. Et quel avenir désormais donc pour Claire Chazal à France Télévisions? Eh bien, son contrat se termine en juin et toujours d'après Télérama, rien ne lui aurait été proposé.
Une émission qui s'arrête, une autre qui démarre. Bertrand Chameroy à la tête d'un nouveau programme.
L'adaptation de sa chronique de C'est à vous, mais sur une heure. l'ABC hein, dont vous venez d'entendre le générique. Alors ABC d'habitude ça signifie actualité de Bertrand Chameroy, mais ça va devenir le temps d'un seul numéro, l'année de Bertrand Chameroy. Ce sera le 19 décembre à 19h, horaire sur lequel il y a d'habitude C'est à vous, mais l'émission sera en pause le temps des vacances de Noël. Alors France 5 précise qu'Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen seront partis en vacances, mais ils ont oublié Bertrand Chameroy, laissé seul dans le loft de C'est à vous. Vous apprécierez la référence au film « Maman, j'ai raté l'avion ». C'est ce petit garçon oublié à la maison par ses parents lors des vacances de Noël. Bertrand Chameroy a d'ailleurs parodié l'affiche du film aussi pour faire la promotion de son émission. On le voit dans un pull rouge, les raffolés, bouche ouverte, les deux mains sur chaque joue. Mais bon, revenons au programme. Concrètement, à quoi ça va ressembler? Bien, pendant une heure, Bertrand Chameroy va revenir sur l'année écoulée, entouré de chroniqueurs de la bande de C'est à vous, Mathieu Béliard, Mohamed Bouafsi, Émilie Tranen-Guyenne. Entouré d'invités aussi, Michel Larocque, Fred Testo, Bérangère Kiev et Kenji Girac sont annoncés. Un invité surprise aussi viendra préparer le dîner. France 5 promet des jeux en plateau sur l'actualité pour balayer avec humour l'année politique, people, sociétale et culturelle, et puis des séquences inédites, des parodies, des happenings. Et évidemment, un condensé des images les plus drôles déjà dénichées par Bertrand Chameroy pendant l'année pour sa chronique. Ce sera le 19 décembre, donc à 19h.
Beaucoup moins joyeux, l'actualité presse écrite. Le journal Le Midi Libre va devoir supprimer des postes.
Une diminution de nos effectifs est incontournable. Voilà ce qu'a expliqué la direction aux salariés. Elle veut privilégier un plan de départ volontaire. 45 postes sont visés. C'est en fait pour faire face à une situation économique très dégradée à cause de la baisse des revenus de diffusion et de ceux de la publicité aussi. Et puis sans oublier ce à quoi font face tous les journaux, l'augmentation du prix du papier, de l'énergie, du carburant, ce qui rend le journal déficitaire. La direction prévoit donc d'optimiser les dépenses, mais se dit aussi contrainte de supprimer des postes. Des discussions vont donc avoir lieu la semaine prochaine avec les représentants du personnel.
Dans l'actualité internationale, très étonnant, une grève de grande ampleur au New York Times. Donc,
très étonnant car ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Hein. Depuis 1981, plus d'un millier de journalistes et d'employés en grève pendant 24 heures, 1100 précisément, et des centaines d'entre eux sont allés manifester.
We make the paper, we make the profits. We make the paper, we make the profits.
Traduction, c'est nous qui faisons le journal, c'est nous qui faisons du profit. Alors l'idée derrière ce slogan, c'est que les salariés aimeraient justement bénéficier de ce profit que fait le journal. Ils réclament des augmentations de salaire depuis des mois, depuis plus d'un an et demi. C'est pour faire face à l'inflation et donc au coût de la vie particulièrement élevé, en plus à New York. Mais les négociations avec la direction n'aboutissent pas comme ils le souhaiteraient. Les augmentations proposées ne sont pas assez élevées. Une porte-parole de la direction a indiqué à propos de cette grève être déçu que les salariés prennent, je cite, des mesures si extrêmes alors que nous ne sommes pas dans une impasse. Fin de citation. Ce mouvement n'empêchera pas le journal de paraître aujourd'hui, puisque d'autres journalistes non syndiqués et des correspondants ont pris le relais pour fabriquer le quotidien.
Et on termine ce journal avec cette info. Les députés ont désormais interdiction d'être en direct sur des plateformes ou des réseaux sociaux, à l'Assemblée nationale.
Oui, fini les directs sur la plateforme Twitch, sur YouTube ou tout autre outil de communication avec l'extérieur depuis l'hémicycle. C'est ce que le règlement précise désormais, car les députés n'avaient pas le droit de téléphoner déjà, mais ils n'étaient pas inscrits noir sur blanc que l'interdiction s'appliquait aussi à ces fameux directs depuis les plateformes. C'est pour ça que le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, avait profité d'un flou pour proposer des directs sur sa chaîne Depuis Twitch. Il se filmait face caméra pendant les débats, il les commentait parfois. C'est une pratique qui avait agacé plusieurs députés au sein de l'hémicycle. Il avait d'ailleurs été rappelé à l'ordre mais s'était défendu en plaidant justement que ce règlement parlait surtout des téléphones et qu'il faisait ses directs dans un but d'éducation populaire, d'éducation civique.
Maintenant, c'est interdit. Merci beaucoup Luce Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est pas interdit, c'est même recommandé. L'inscription est gratuite sur europe1.fr.
C'est gratuit.
À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
Dans un instant, notre info média du jour, France Info, le canal 27. France Info téléorganise une émission spéciale sur la guerre en Ukraine en fin d'après-midi ce soir. Nous serons avec le directeur de France Info TV, c'est Eric Berg. C'est lui qui a monté cette opération, une journaliste ukrainienne, tous les deux en direct depuis Kiev. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Déjà plus de 9 mois de guerre. Le 24 février, la Russie envahissait l'Ukraine. Hier, Vladimir Poutine reconnaissait que le conflit était long, que la guerre durait plus longtemps qu'il ne l'aurait pensé. Et pour la première fois, le président russe a semblé éloigner la possibilité d'une attaque nucléaire qu'il utilisait encore comme menace depuis plusieurs mois. Mais la guerre n'en est pas finie pour autant. Plus de 9 mois après le début du conflit, alors que la France organise une conférence internationale, ce sera le 13 décembre, France Info Télé, c'est-à-dire le canal 27 de la TNT, délocalise une partie de son antenne pour une émission spéciale depuis Kiev, en collaboration avec la télévision et la radio ukrainienne. Ce sera ce soir de 17h à 19h. Comment continuer à informer en temps de guerre et dans quelles conditions travaillent les journalistes sur place au-delà de ce duplex? Pour parler de ce dispositif exceptionnel, trois invités. Eric Berg, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes en direct avec nous depuis Kiev, d'où le tout petit décalage dans le temps. Vous êtes le directeur de France Info Télé, c'est le canal 27. C'est vous qui avez initié cette opération spéciale. Avez-vous avec nous Irina Slavinska, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ukrainienne, journaliste à la radio publique Suspilné, et vous êtes en direct avec nous. C'est vous qui avez mis en place le dispositif. Avec nous dans ce studio, Maria Yeshenko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédac-chef à Paris de cette édition spéciale.
Salut Irina, ça va? Salut Eric.
Oui, voilà. Ça va, bonjour.
Voilà, et vous vous saluez en français. Eric Berg, vous avez pris votre fonction de nouveau directeur de France Info Édition Télé. Cette délocalisation à Kiev, cette spéciale, c'était une de vos premières actions à ce poste ou est-ce que c'était déjà prévu à votre arrivée?
Non, Philippe, c'est une de mes, c'est une action qui s'est montée quand je suis arrivé parce que je suis quelque part persuadé qu'il faut maintenant, dans les chaînes d'information en France, aller au-delà du simple décryptage de la parole d'experts, de cette info qui est un petit peu verticale parfois, et qu'il faut s'inviter dans la conversation des gens, qu'il faut aller plus s'incarner. Donc on l'a déjà fait une première fois en allant confronter les propos du président de la République aux paroles de Français, c'était à Rennes, et puis ben là on le fait d'une manière spéciale en Ukraine, dans un contexte un peu plus complexe, plus difficile, mais il nous semblait important d'aller regarder comment les simples gens, les simples citoyens vont passer cet hiver qui s'annonce sans électricité, parfois sans chauffage, sans eau, enfin un hiver particulièrement complexe.
Alors on est tous d'accord avec ça ici. Moi, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que 2 heures de direct depuis Kiev, ça coûte cher, ça peut être dangereux. Est-ce que la direction de France Télévisions a été facile à convaincre également, même si j'ose dire les assurances?
Alors, c'est un projet qui peut paraître fou, mais qui est en réalité très mesuré. Vous imaginez bien qu'autrement, Alexandre Carat, notre directeur de l'information qui veille au grain, ne nous aurait pas permis de y aller et ne nous aurait pas encouragé à faire cette émission. C'est une émission qui repose en grande partie, c'est une grosse logistique, si vous voulez, mais c'est une toute petite équipe sur place. Mmh. Nous sommes que 7 personnes. Plus évidemment nos reporters qui sillonnent le pays, mais ça ils le font habituellement et tout au long de ces 300 jours de guerre maintenant. Et cette petite équipe, c'est vraiment le minimum parce qu'on s'est remis, entre guillemets, dans les mains de nos confrères de la télé publique sous Spilné, qui travaillent d'ailleurs en collaboration avec la télé privée ici depuis le début de la guerre. Et finalement, ce sont leur expertise, ce sont leurs moyens, ce sont leurs techniciens, ce sont leurs réalisations qui vont nous permettre, en toute sécurité, dans un lieu qu'ils ont choisi, justement parce qu'il était sécurisé. Et là, on est plus sur des notions d'esthétisme.
Ouais. Quel est ce lieu? Je me tourne vers vous, Irina Slavinska. Quel est ce lieu? Quel lieu avez-vous choisi? Est-ce que vous pouvez nous le décrire sans tout raconter à l'ennemi, si j'ose dire?
Oui, c'est un lieu assez spécial. Je pense que cette géographie aussi, ce lieu tel quel, est très caractéristique si on parle de ce direct. Donc, c'est le logement du musée de la Deuxième Guerre mondiale, qui se trouve au plein cœur de la ville de Kiev. C'est là où se trouve cette grande statue que je suppose plusieurs Français et Françaises ont vu sur les photos, la mère patrie, qui était créée et construite à l'époque soviétique. Donc, comme symbole et comme monument, c'est pas trop évident dans le contexte actuel. Mais là, le bâtiment de ce musée de la Deuxième Guerre mondiale se trouve au sous-sol, donc au niveau de la sécurité, c'est assez safe comme abri.
Question technique, comment ça se passe en cas de coupure de courant? Quelles sont les garanties que vous avez prises pour qu'il n'y ait pas une rupture de faisceau?
Normalement, c'est la question que n'importe quelle famille ukrainienne se pose très souvent.
Bientôt, bien sûr.
À la télé, bien sûr. Et à la télé, on fait pareil. Donc, on prévoit tout l'équipement nécessaire, les générateurs, par exemple, les sources d'Internet en ligne qui fonctionnent, quoi que ce soit. Et pour les événements publics, dont par exemple un forum de la culture que j'ai participé hier, dans le même bâtiment du musée de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Donc quand même, pendant ces semaines des coupures d'électricité régulières, on a pris déjà un peu d'habitude pour s'adapter à ces conditions.
Petite question à Eric Berg avant de donner la parole à Maria Yeshenko. Eric, est-ce que vous avez doublé les faisceaux? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une rupture de faisceaux?
Alors, a priori, non, puisque ça passe par le satellite et que c'est relativement sécurisé. Donc, on n'a pas doublé les faisceaux. Mais je dois vous avouer qu'à l'heure où je vous parle, Philippe, j'ai quand même une petite angoisse. Je me dis qu'il y a toujours cette peur qu'il puisse y arriver quelque chose. Normalement, écoutez, normalement, ça devrait bien se passer.
Ouais, pendant que je posais cette question-là, Maria Yeshenko, qui est avec nous en studio, faisait une drôle de tête. Vous craignez la rupture de faisceaux? C'est possible? Tout non. est possible avec les Russes. Tout est possible.
Avec les Russes, tout est possible, bien évidemment. Mais nous, on est à Paris. La régie fonctionne très bien, donc on va pouvoir envoyer les sujets sur les duplex et faire tout pour centraliser la fabrication et envoyer le conducteur depuis Paris.
Alors, vous êtes la rédac chef, Maria Yeshenko, de cette édition. Oui, pardon, Eric, allez-y. Et après, je pose la question à Maria. Allez-y, Eric Berg.
Oui, si je peux vous interrompre, plus que les ruptures de faisceaux, parce que je ne pense pas que ça puisse vraiment arriver. Ce qui nous fait le plus peur ici, ce serait par exemple une alerte qui empêche nos invités de se rendre sur place. Je crois que c'est plutôt cette peur-là qu'on a, pourvu qu'il se passe rien avant et que tout le monde puisse gagner ce lieu qui est sécurisé.
Mais alors, comment vous avez fait? Vous les avez convoqués 6 heures avant pour être certain qu'il n'y ait pas de souci en cas d'alerte?
Alors, on les a convoqués 2 heures avant. Ouais. Et on va les chercher nous-mêmes avec des véhicules, des chauffeurs, pour qu'effectivement, on prenne le maximum de précautions pour qu'ils puissent être vraiment là au bon moment. Mais voilà. C'est pas simple.
C'est même ce qui se passe à Paris depuis quelques années, depuis qu'il y a des embouteillages monstrueux. Maintenant, les chaînes de télé et de radio donnent les rendez-vous avec beaucoup plus d'avance. Alors, Maria Yeshenko, vous êtes la rédac-chef de cette édition spéciale. C'est vous qui avez en partie construit le conducteur de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va voir à l'antenne, notamment de 17h à 19h, émission spéciale, on ne l'a pas encore dit, qui sera présentée par Louis Laforge et Lucie Chaumette?
Alors, petit contexte important, je suis née en Ukraine, j'ai grandi en Ukraine, donc j'ai un carnet d'adresses qui est peut-être différent du carnet d'adresses de n'importe quel journaliste en France. Et du coup, j'ai mis ce carnet d'adresses au service de France Info. Donc, les invités qu'on va voir ce soir, ce sont des Ukrainiens. Ce sont des gens extraordinaires qui vont pouvoir témoigner de leur vie, raconter d'où ils puisent l'énergie tous les matins pour se réveiller, pour continuer en fait à vivre dans ces conditions très très compliquées. Donc on va les rencontrer et on va pouvoir leur poser toutes ces
questions. Vous avez en partie répondu à ma question. Ça ne sera pas une émission comme il y en a beaucoup, et je ne leur reproche pas, avec des pontes, avec des militaires, avec des élus. Là, ce sont des gens, des hommes et des femmes de la rue. C'est votre idée de départ.
Exactement. Il y a une peintre, il y a une banquière, il y a des journalistes, il y a des philosophes, il y a une étudiante, il y a une prof. Donc voilà, on a essayé de retrouver les métiers. Enfin, on va faire parler les gens qui peut-être ne parlent pas souvent sur France Info, sur les autres chaînes. Donc on va leur donner la parole aujourd'hui.
Il y aura du propos en plateau. Il y aura aussi des reportages qui ont été tournés dans la ville.
Exactement, ouais. Les reportages qui ont été tournés à Mykolaïv, à Kherson, à Kharkiv, avec nos reporters qui sont sur place depuis 2 semaines maintenant. Et pareil, les histoires pour les reportages, on les a cherchées. Moi, je les ai cherchés via mon réseau personnel pour avoir des témoignages poignants et des histoires frappantes.
Alors, comment on travaille dans un pays en guerre qui ne dit pas son nom? Deuxième partie de Culture Média, toujours en direct de Kiev et aussi en direct du studio Lagardère. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On salue le travail des journalistes. Il y aura tout à l'heure de 17h à 19h une émission spéciale en direct de Kiev sur la chaîne France Info Télé, le canal 27 de la TNT. La rédac-chef de cette édition spéciale est avec nous en studio parce qu'elle coordonne tout depuis Paris. C'est Maria Yeshenko. Eric Berg, c'est lui qui avait lancé l'idée de cette spéciale. C'est le directeur de la chaîne. Il est en direct de Kiev avec nous en compagnie d'Irina Slavinska. Vous êtes journaliste à la radio publique. J'ai oublié, je l'ai mal noté, j'ai mal recopié le nom de la radio publique. Redites-le, s'il vous plaît.
En ukrainien, ça s'appelle Suspilne.
Voilà, je l'ai mal prononcé. J'arrive même pas à me relire tant j'ai écrit ça vite. Ma question est très sérieuse. Vous êtes journaliste là-bas à Kiev. Comment peut-on exercer son métier de journaliste? C'est une radio publique depuis le début de la guerre.
En fait, si on parle du travail des journalistes ces mois-là, on peut dire en même temps que tout est changé, mais rien n'est changé. Bien sûr, les conditions de travail sont différentes. Maintenant, on passe pas mal de temps dans les abris, par exemple. Donc, nous, à la radio.
Juste un mot, Irina, on vous entend très très mal. Il n'y a plus le son. Irina, je vous interromps, on vous entend plus. Reparlez dans le premier micro. On vous entend plus du tout comme tout à l'heure. Comme si vous aviez touché quelque chose. On vous entend très faiblement, comme si vous étiez de loin. Rapprochez-vous de votre micro. Je ne sais pas, comme si un canal s'était perdu. Eric Berg, vous nous entendez bien?
Je vous entends bien et je peux même, puisque j'ai longuement parlé avec Irina hier, répondre en partie pour elle le temps qu'elle retrouve son micro.
Ouais.
Ils ont mis en place ici un système très intéressant qui s'appelle le marathon de l'information. C'est-à-dire que tout de suite après le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine, ils se sont réunis, ils ont dit voilà, il va falloir qu'on informe les gens 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comment on fait? Et ils ont décidé de se réunir ensemble, les médias publics, les médias privés, pour occuper un canal par tranche de 6 heures. Et chaque média, pendant 6 heures, diffuse ses programmes. Et puis, ça change toutes les semaines pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pour qu'il y en ait qui fassent le matin, mais aussi la nuit, l'après-midi. C'est un peu comme si chez nous, si vous voulez, on se réunissait, Europe 1, France Télévisions, TF1, M6, et qu'on se disait, ben voilà, on va faire un seul canal pour informer les gens et on va se répartir dans ce canal des tranches d'informations. Comme ça, on pourra toujours informer la population d'une même voix, toute la journée, 24 heures sur 24. Et c'est vraiment un concept très intéressant parce que, entre eux, ça les a obligés à beaucoup de rencontres, d'harmonie, de concepts, et ça leur permet de tenir la population informée.
Irina Slavinska, Jérémy Hébert me dit qu'on a retrouvé votre son. Vous m'entendez bien?
Oui, et vous?
Parfaitement, parfaitement. Quels sont les sujets que vous abordez à la radio? Parce qu'il y a deux lectures. On peut dire qu'on peut choisir de ne parler que de la guerre, puisque c'est l'information principale, ou on peut dire de ne pas en parler, ou de faire comme si elle n'existait pas, qui est justement ce qui doit faire enrager les Russes. Comment travaillez-vous? Quel contenu proposez-vous à vos auditeurs?
Nous, on parle de la vie qui nous entoure, de la vie réelle. Moi, par exemple, je travaille surtout comme directrice de la radioculture. Donc, notre programmation concerne beaucoup les sujets de la culture. Et là, il est impossible de contourner le sujet de la guerre parce que tous les artistes et toutes les artistes ukrainiens et ukrainiennes participent beaucoup dans tout ce qui se passe ces jours-là. Il y a ceux et celles qui sont partis sur le front, qui ont pris les armes dans leurs mains et qui se combattent pour l'Ukraine. Il y a ceux qui travaillent comme les volontaires et qui supportent les civils, les militaires, ça dépend de leur centre d'occupation. Il y a ceux et celles qui travaillent dans la création, comme avant, mais qui parlent beaucoup de ce qui se passe en Ukraine. Et malheureusement, il y a quand même pas mal des artistes qui sont touchés par la guerre, surtout par l'agression des occupants russes. Il y a les écrivains, les musiciens, les autres artistes qui ont été tués à cause de l'agression des Russes, par exemple, comme le cas de cette semaine. On vient de découvrir le corps d'un écrivain de la jeunesse, Volodymyr Vakulenko, qui a été tué dans la ville d'Izium. Je pense que votre audience a entendu parler d'Izium dans les actualités. Donc, cet écrivain a été disparu depuis le mois d'avril pendant la présence des occupants russes dans la ville, et on vient de découvrir qu'il a été tué. Pourquoi faire à tuer un écrivain de la jeunesse, j'en sais rien, mais pour toute la communauté culturelle, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés, qui nous a beaucoup bouleversés. Donc, ces jours-là, on parle de lui, par exemple, dans nos émissions.
Juste pour dire que je partage votre indignation et pourquoi tuer quiconque, écrivain pour la jeunesse ou non, écrivain ou pas écrivain. Irina, est-ce que vous êtes totalement libre de parler des sujets que vous souhaitez, ou bien est-ce que vous recevez des consignes de votre direction, voire d'un échelon plus haut?
Non, aucune consigne. La rédaction de la radioculture travaille d'une manière absolument libre. Bien sûr, on travaille, on collabore avec les collègues d'autres chaînes, d'autres stations de radio dans le cadre de ce marathon d'information dont Eric a déjà mentionné. Mais bien sûr, notre travail est mesuré surtout par les standards du journalisme, par les règles qu'on observe tous dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle rédaction.
Je veux dire par là qu'il n'y a pas de communication de guerre. comme ça existait dans beaucoup de conflits, et comme par exemple en Russie, l'interdiction de prononcer le mot guerre à l'antenne, par exemple.
Non, chez nous on parle librement, bien sûr, et malheureusement je préférais qu'on ne serait pas obligé de parler de ça. Je préférais de faire les émissions sur l'Ukraine paisible, bien sûr. L'Ukraine où il n'y ait pas de la guerre. Mais dans ces conditions-là, bien sûr, on parle de la guerre, on parle de tout ce qui est important.
Éric Berg, quel sentiment avez-vous ressenti sur place? Comment le monde occidental et les Français en particulier sont-ils perçus, et les journalistes français, le journaliste français que vous êtes?
J'ai senti une grande envie de témoigner, et justement de la part de gens qui n'ont pas forcément longtemps la parole. Cette envie de dire finalement le quotidien, en disant attendez, on vit quand même, hein. Simplement on se projette plus, on vit à 2-3 jours, on profite des restaurants, mais on a du mal à penser un peu plus loin, à penser dans le temps. Et puis alors, sur le côté des techniciens, j'ai ressenti une grande envie de faire pour nous cette émission, parce que beaucoup d'entre eux m'ont dit, depuis ces 300 jours de guerre, ils comptent la guerre en jours, depuis ces 300 jours de guerre, on ne fait plus d'émissions de divertissement, on fait beaucoup moins d'émissions qui supposent des changements de caméra, des changements d'axe, et on est vraiment concentré sur le journal, qui est plus des plans fixes, et là, vous allez nous permettre de refaire de notre métier, qu'on retrouve les gestes qu'on faisait avant. Et ils sont vraiment ravis de ce côté-là. Donc, un, de nous aider à témoigner de la situation, et deux, de pratiquer finalement leur métier tel qu'ils le faisaient auparavant.
Maria Ishchenko, je rebondis en souriant sur ce que vient de dire Éric Berg. Ça ne sera pas une émission de divertissement de 17h à 19h.
Non,
mais
non.
Il y aura plusieurs caméras.
Il y aura plusieurs caméras.
Et ça sera un grand plateau. Juste un mot après l'édition spéciale qui sera présentée par Lou Laforge, il y aura une émission présentée par Patricia Loison en plateau avec des journalistes de guerre. Quel sera le déroulé de cette émission? Qu'est-ce qu'on verra ensuite?
C'est la suite logique pour nous, qui nous permettra de parler du travail journalistique et voir comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on raconte cette guerre après 9 mois du conflit. Comment on vérifie nos informations, comment on continue à informer, et voilà, et pour ça on réunit les journalistes.
Éric Berg, j'ai une question média pour vous. Cette volonté d'axer sur l'Ukraine, est-ce que c'est aussi une manière de faire de l'audience? Je veux dire, le sens de ma question, LCI, qui consacre 80% de son temps d'antenne à l'international et en grande partie à l'Ukraine évidemment, était totalement distancé par CNews, et ils sont en train de combler leur retard. Il y a un dixième de point qui les sépare seulement, ça n'a pas pu vous échapper.
Alors, vous savez, je me réjouis toujours, moi, de la réussite des collègues. Mais nous sommes dans le service public, on ne peut pas avoir une monothématique. On se doit d'essayer de travailler pour tous les publics et sur tous les sujets. Il n'y a pas que l'Ukraine, malheureusement, dans l'actualité internationale. Mais non, Philippe, ce n'est vraiment pas une manière de faire un coup, une manière de faire de l'audience. Moi, je crois vraiment qu'il faut aujourd'hui qu'on s'invite dans la conversation des gens d'une manière un peu moins verticale et qu'on confronte toujours ce qui est dit par les experts, ce qui peut être dit par les politiques publiques, à la réalité des gens. Et cette émission, elle s'inscrit vraiment dans ce cadre-là pour moi. On en fera d'autres en France qui seront peut-être moins spectaculaires, probablement en janvier, sur l'inflation, sur le panier de la ménagère. Mais voilà, aller auprès des gens pour écouter, venir
j'ai
avec
compris.
Un peu plus de modestie. Voilà,
j'ai
c'est
compris.
Important.
Et aujourd'hui, de 17h à 19h, ce sera le panier de la ménagère de Kiev. Une émission au cœur des préoccupations des gens. Merci beaucoup, Éric Berg, d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur de France Info TV, canal 27. Irina Slavinska, je vous remercie. Vous êtes journaliste de la radio publique. Cette fois-ci, je l'ai bien noté. Elle s'appelle Suspilné. Et puis Maria Ishchenko, vous êtes la rédac-chef de cette édition spéciale à voir aujourd'hui de 17h à 19h. Merci d'avoir été avec nous en direct, tous les trois. Nous, on se retrouve dans un instant, comme tous les vendredis, l'actu et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic de l'équipe. Et puis, on va également retrouver Bruno Donnet pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, on va retrouver Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe.
Au programme, une triple dose de Kylian Mbappé, c'est pas pour me déplaire. Et alors, il sera même question du fameux marabout de l'affaire Pogba qui a fait ma joie.
Il revient.
J'ai hâte. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Là également, j'ai hâte. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici la manière dont les médias traitent l'actualité. Ce matin, vous vouliez évoquer ce que vous appelez la complémentarité médiatique.
Oui, vous le savez Philippe, les médias s'intéressent bien souvent aux mêmes choses, au même moment. Pour autant, cette forme de complémentarité ou de porosité, comme vous voulez, entre médias peut prendre des formes d'expression extrêmement différentes. Et cette semaine, j'en ai repéré 3. La première, c'est la forme la plus répandue, c'est la copie. Une chaîne repère un angle original sur une autre et donc elle s'empresse de faire la même chose. Ainsi, mardi, le 13h de France 2 avait choisi de proposer un angle économique à la question des préparatifs de Noël.
Votre pouvoir d'achat maintenant, et c'est l'une des grandes tendances de cette année, faire ses décorations de Noël et pourquoi pas même ses cadeaux soi-même. Une façon de réaliser évidemment des économies.
Bonne idée, s'est dit TF1 qui, dès le lendemain, mercredi et à 13h, elle aussi a proposé ceci.
Pour les fêtes, les guirlandes et les couronnes peuvent coûter cher. Faisons-les nous-mêmes.
Eh bien oui, faisons-les nous-mêmes, les sujets aussi. Alors sur France 2, les journalistes avaient suivi une jeune femme qui ne dépense pas un rond hein, parce qu'elle récupère le matos pour ses décorations juste autour de chez elle.
Un petit budget, car la matière première se trouve dans la nature.
Eh bien TF1 a fait la même chose.
Panier en main, cet animateur nature se rend en forêt.
Et comme sur France 2, l'héroïne du reportage avait un goût particulier pour le ramassage des pommes de pin.
Ben voilà. Des petites pommes de pin qu'on va trouver en forêt, hein, quand même.
Eh bien, TF1 a choisi de nous causer, je vous le donne en mille, non. Pommes de pin.
Prenez du sapin, du lierre, rajoutez une pomme de pin, on obtient au final une couronne de Noël.
Voilà, copier, coller et le tour est joué. La deuxième forme d'expression de la porosité entre les médias, c'est la complémentarité. Alors ici, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'une chaîne de télévision, par exemple, peut tout à fait nous permettre de mieux comprendre ce que l'on a vu sur une autre. Je m'explique. Mardi, sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine a causé en duplex depuis le Qatar avec le champion du monde de football, Marcel Desailly.
Comment ça va, Marcel ?
Elle lui a demandé de ses nouvelles, mais surtout son point de vue sur la Coupe du Monde au Qatar.
On est sur une Coupe du Monde extraordinaire, la meilleure qui ait jamais été réalisée.
Desailly s'est montré totalement dithyrambique, un peu surprise. Hein, vous vous souvenez des polémiques sur le respect des droits de l'homme et la construction des stades. Anne-Elisabeth Lemoine l'a donc relancé.
La meilleure ?
Mais Marcel Desailly a confirmé sa position.
Oui, parce que les infrastructures sont fantastiques. On a la possibilité de regarder 3 matchs dans la journée pendant la première partie du tournoi et on est sur une 5G.
Bon, alors il y avait de quoi être étonné d'entendre Desailly encenser ainsi un pays qui respecte si mal les minorités, mais finalement, en écoutant Nelson Montfort le même jour, interrogé sur C8 cette fois, eh bien, soudain, tout est devenu nettement plus clair.
Le Qatar, puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes, a demandé à quelques influenceurs d'inviter là-bas au Qatar, tout frais payé pendant 4-5 jours, assister à un match dans les hôtels de luxe, etc., et en revenant dire du bien du Qatar. Non. Est-ce que vous imaginez le manque de conscience professionnelle de se regarder le matin dans la glace pour accepter ça ?
Et voilà, wow. Tout s'explique. Enfin Philippe, le troisième mode d'expression de cette porosité médiatique, eh bien il peut être aussi nettement plus foutraque, voire même totalement baroque. Hier, par exemple, juste avant 14h, j'ai regardé BFM TV. Il y était question d'un mode de consommation.
C'est une étude que BFM TV vous révèle aujourd'hui. 63% des Français achètent leurs articles en vrac.
Les achats en vrac. Et, sondage à l'appui, BFM TV me l'a garanti, le vrac, c'est très tendance.
Le concept se développe de plus en plus dans les grandes surfaces. Ça permet évidemment de maîtriser sa consommation.
Le hic, c'est que rigoureusement, au même moment, j'ai eu l'idée d'aller zapper sur la chaîne d'à côté, RMC Story. Et si je vous dis à côté, Philippe, c'est parce que BFM TV et RMC, vous le savez, hein, ils appartiennent au même groupe, Altice, et qui travaillent donc dans le même immeuble. Eh bien, figurez-vous qu'à la minute même où BFM TV me jurait que la consommation en vrac, c'était très tendance, eh bien, RMC Story m'a expliqué exactement le contraire.
On va parler du vrac, sauf que cette tendance, Paul, elle n'est plus vraiment tendance, quoi.
Du coup, sur le front de la porosité médiatique, je ne sais plus quoi penser. Philippe, faut-il se compléter, se copier ou dire rigoureusement le contraire de ses voisins de bureau ? Je suis en vrac et je ne peux même pas vous dire si c'est tendance.
Non mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vont se dire à la machine à café une fois qu'ils auront entendu votre chronique ? Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi.
À lundi.
On est vendredi, c'est Sport Média, comme chaque vendredi avec Sacha Nokovic. Le programme Sacha, je sais que vous allez parler de Coupe du Monde et j'en suis ravi pour tout vous dire.
Et de Kylian Mbappé, vous l'adorez
normal,
aussi.
Normal, bah évidemment. Voilà. Alors, qui ne l'aime pas, franchement.
Pourquoi il est si discret au Qatar, Kylian Mbappé ? C'est vraiment pas son genre. Et puis bah, demain, c'est le quart de finale, vous l'avez dit, France-Angleterre. Comment les médias anglais voient-ils notre kiki national ? On en parle dans un instant.
Mais pour commencer, le feuilleton qui fait ma joie, c'est l'affaire Paul Pogba. Il continue ce feuilleton. Et là encore, il s'agit indirectement de Kylian Mbappé.
Bah oui, souvenez-vous, fin août, on en a parlé ici, on découvrait sur les réseaux sociaux des vidéos étranges de Mathias Pogba, le frère de Paul, le grand frère, quelques semaines après une tentative d'extorsion de fonds subie par le joueur français. Vidéo dans laquelle on trouvait cette menace du fameux Mathias.
D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit.
La grande révélation, Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, notamment en 2019 lors d'un match décisif entre le PSG, le club d'alors de Pogba, Manchester United.
Je m'en souviens très bien, tous les médias en avaient parlé, et BFM TV a même invité un marabout, un expert, un vrai marabout en direct sur son plateau.
Un vrai, mais pas le bon.
Ah non, pas le bon.
Et voilà,
bah
cette semaine, c'est le journal Le Parisien qui a retrouvé le vrai marabout, non. Celui de Pogba. Alors il n'est pas au milieu d'un village d'Afrique, il est surnommé Grande, il a 39 ans, mais il vit en région parisienne. Le journaliste a sonné par surprise chez lui lundi, 1h30 d'interview dans le hall de l'immeuble et une demande spécifique du marabout, celle de préciser dans l'article que c'était la première et la dernière fois qu'il parlait. Voilà, il veut éviter le défilé médiatique chez lui, mais après des mois de silence, bah, au moins il a donné sa version des faits à Ronan Folgoas sur ce sort qu'il aurait jeté à Mbappé, de la pure invention, dit-il, et le journaliste du Parisien nous raconte comment Grande a réagi à cette question.
Il est assez catégorique et il a même été outré par le fait qu'on puisse penser que Paul Pogba se soit livré à un maraboutage d'un coéquipier. Paul Pogba a une grande admiration pour Kylian Mbappé, il le voit comme un coéquipier de l'équipe de France et avant tout comme cela, bien plus qu'un adversaire qu'il pourrait rencontrer sous le maillot du PSG et lui à l'époque sous le maillot de Manchester United.
Voilà, après le démenti de Paul Pogba, celui du marabout, ça devrait un petit peu plus rassurer Kylian Mbappé en vue des retrouvailles entre les deux joueurs en équipe de France dans quelques mois.
Voilà, sauf que je dis ça pour les gens qui ne suivent pas le foot. Pogba qui est blessé, il ne joue pas la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus, ce qui ouvre la porte à tous les commentaires que je m'abstiendrai bien de faire ici. Mbappé, lui, oui, il joue, mais il se fait très discret médiatiquement.
Très très discret même. Alors autant avec le PSG, on le voit tout le temps, il n'hésite pas à répondre aux journalistes, même en temps de crise. Mais pour le Mondial, bah, ses proches avaient prévenu les journalistes avant le début de la compétition, Kylian ne prendra plus la parole jusqu'à nouvel ordre. Mais après 1, 2, 3 matchs sans Mbappé au micro des télés, des radios ou face à la presse, bah, l'absence de la star des Bleus commençait quand même à intriguer. Alors Kiki est enfin sorti du silence dimanche dernier après la qualification face à la Pologne, avec la volonté de rassurer les médias. Non, il ne boudait pas Kylian.
Tous les journalistes ils sont là, c'était rien de personnel, j'avais rien contre les journalistes, rien contre les gens, c'est juste que je sais que j'avais besoin de, et j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition, et je sais que quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie dans d'autres choses.
Alors pour ne pas perdre d'énergie, Mbappé s'engage alors même à payer à la place de la Fédération Française de Foot l'amende de 20 000 euros pour ses absences en conférence de presse qu'il aurait dû honorer lors des deux premières désignations d'homme du match. Mais sympa, la FIFA a annulé les amendes parce que Mbappé, bah, c'est lui qui assure la plus belle promo à la compétition.
Voilà, et puis 20 000 euros pour Mbappé, c'est pas grand-chose. Et est-ce qu'il y a 4 ans, lors de la Coupe du Monde en Russie, est-ce que Mbappé était aussi silencieux?
On l'avait assez peu vu face aux médias aussi il y a 4 ans. Philippe Tournon, l'attaché de presse des Bleus en 2018, m'a expliqué qu'il était rare en fait dans ses grands moments en bleu. Je le cite, sa franchise et ses ambitions légitimes n'étaient pas toujours bien comprises et prises pour de la prétention. D'ailleurs, c'est encore un peu le cas. On le trouve parfois arrogant, Kylian Mbappé. Mais est-ce que c'est une habitude des grands joueurs français lors des Coupes du Monde de se murer ainsi dans le silence? Bah, j'ai posé la question à une autre légende, Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar et 14 Coupes du Monde au compteur.
C'est vrai que par le passé, on n'a jamais connu ce genre de situation, que ce soit Michel Platini, que ce soit Zinedine Zidane. Jamais ils ont boycotté, entre guillemets, la presse. C'était une autre période, on pouvait aller à l'hôtel des Français, interviewer les Français qu'on souhaitait, etc. Il n'y avait pas cette rigueur. Vous savez, chez Mbappé, tout est cadré, tout est solidifié, tout est calculé, tout est analysé. Et à la sortie, eh bien, la prochaine fois qu'il parlera, c'est peut-être le jour où il sera champion du monde de football.
Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite et qu'on nous souhaite. Évidemment.
Évidemment, juste un mot de Jacques Vendroux. À la grande époque des Verts, il avait mis un survêtement Manu France. Il les avait interviewés. Il était dans le vestiaire des Verts.
Mais ils s'entraînaient avec
Rocheteau
eux.
Et Herbin. Mais oui, c'est juste une autre époque. Alors, avant la finale, il y a un match décisif demain à 20h. Je n'apprends rien à personne. Le quart de finale face à l'Angleterre. Comment les Anglais voient-ils Mbappé?
Bah, nos amis british ne sont pas aveugles. Ils savaient même avant le début du Mondial que Mbappé, c'est un talent naturel. Mais pour eux, et notamment certains médias anglais, il restait un joueur du PSG et donc de la Ligue 1. Ce que les Anglais aiment appeler la Farmers League. La Ligue des fermiers, la Ligue des bouseux pour les méchants, les mauvais esprits, on va dire. En opposition avec le championnat à eux, la première Ligue, le plus puissant du monde. Alors, j'ai demandé à Darren Tullett, le journaliste de Beansport, sport le plus Frenchy des Anglais, de nous raconter si ce regard avait changé depuis le début de la Coupe du Monde.
Parce que c'est vrai qu'en Angleterre, on a cette malheureuse tendance de regarder que la Première Ligue. On pense que c'est la meilleure du monde. Et il y a effectivement 75% de la population qui peut-être pense comme ça footballistiquement. Heureusement, il y en a d'autres qui connaissent d'autres championnats. Et évidemment, à travers aussi la Ligue des Champions, les Anglais comprennent toute la menace que Kylian Mbappé représente pour notre équipe nationale, pour ce match de samedi. Mbappé fait peur. On ne parle que de lui. Sa vitesse fait peur, mais aussi sa meilleure buteur de la compétition jusqu'à là.
Oui, et c'est voilà. À vous. C'est la conclusion. Voilà comment les médias britanniques parlent de la menace Mbappé davantage que le collectif français. On précise que ce terrible France-Angleterre de demain sera à suivre en direct sur TF1 et Bein Sport, mais aussi sur Europe 1, la radio officielle de la Coupe du Monde avec l'ami Jacques Vendroux. Merci beaucoup, Sacha.
Merci
beaucoup, vendredi. Et d'ici là, on peut vous lire dans l'équipe. Merci beaucoup. Merci Bruno Donnet. Bon week-end
Philippe.
À tous les deux. Culture Média continue évidemment sur Europe après les infos de 10h. Notre invité, c'est le chanteur Vincent Delerme pour son nouveau et double album Comme une histoire et aussi Sans parole, avec un très très beau coffret, des livres et plein de choses, des petits tickets, des goodies. Et puis dans les indispensables gastronomiques, Laurent Mariotte qui va nous rejoindre avec non pas un, mais trois indispensables à déposer sur la table des fêtes. Mais oui, elles approchent, vous ne le saviez pas. Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage sera là évidemment. À tout de suite.